Voudrait nous conduire dans la prière, Monsieur Chang. Une vingtaine d'années, sans doute, un jeune homme plein de promesses, l'un des plus brillants de sa génération, que tout le monde destine à un avenir éclatant dans son pays, le royaume de Juda. Il appartient à coup sûr à l'aristocratie de Jérusalem. D'après une tradition juive, il est vrai, peu fiable, qui n'est attestée que bien des siècles après. Mais enfin, d'après cette tradition juive, il était même de sang royal. Il appartenait à la famille des princes à Jérusalem. Et à divers indices, plusieurs spécialistes estiment qu'il avait dû suivre les écoles qui conduisait à l'exercice du pouvoir. Il avait fait, si vous voulez, l'ENA et Sciences Po. C'était un jeune homme, à coup sûr, éminemment doué, très sérieux, très responsable, et qui, donc, à l'époque où se posait pour lui, commençait de se poser pour lui, la question des responsabilités qu'il pourrait assumer, réfléchissait à la situation de son pays, aux grandes affaires de politique intérieure et surtout de politique internationale. Il était préoccupé. Le pouvoir royal, en fait, était partagé par trois hommes, le grand-père, le père et le fils. Trois hommes, en quelque sorte, pour un seul trône. Le roi en titre, il régnait depuis fort longtemps déjà, c'était Ozias. Il s'appelait aussi Azaria, il avait deux noms qu'on trouve tous les deux dans la Bible. C'était le roi Ozias, un roi qui avait été un bon roi, dont le règne avait été prospère longtemps, grâce en partie au moins à l'éclipse du pouvoir assyrien qui avait laissé les petits royaumes alentour tranquilles. Mais ce roi Ozias, malgré l'orientation généralement satisfaisante de sa conduite, avait commis une faute une fois, une faute de présomption, une faute d'orgueil spirituel, pourrait-on dire, entre guillemets, parce que l'orgueil n'est jamais très spirituel, c'est toujours charnel, mais une faute d'orgueil spirituel. Il avait cru, lui, le roi fidèle, pouvoir usurper la fonction des prêtres, la fonction que la loi de Dieu réservait strictement aux descendants d'Aaron, et du coup, il avait été frappé instantanément de lèpre. Enfin, de lèpre. Vous savez que dans l'Ancien Testament, on appelle lèpre diverses sortes d'eczéma, en fait. Mais de toute façon, il était impur, et donc impropre à l'exercice de ses pouvoirs royaux. Donc, il était toujours le roi en titre, mais pratiquement, il ne pouvait plus gouverner comme roi. Alors, son fils était régent. Son fils Yotam était régent, sans avoir pleinement la couronne. Mais ce Yotam était un brave homme, qui suivait en gros l'exemple de son père, mais un peu falot, pas très énergique, semble-t-il. Et cela pouvait inquiéter le jeune Ésaïe, puisque c'est d'Ésaïe que je parle. C'était le nom qu'avaient donné ses parents à ce brillant sujet, le jeune Ésaïe. Et aux côtés de ce Yotam, depuis juste quelques années, depuis 744 avant Jésus-Christ, le fils de Yotam était aussi adjoint comme co-régent. Oh, il n'avait pratiquement pas de pouvoir, mais il avait déjà reçu ce titre de co-régent, des recoupements dans les textes de l'Ancien Testament nous permettent de le dire. Or, cet Achaz, Achaz ou Achaz, était lui une forte personnalité, tout jeune encore, mais on sentait que c'était lui quelqu'un qui ne se laisserait pas faire et qui avait des vues politiques qui déjà se dessinaient, seulement pas du tout dans le même sens que celle de son père, de son grand-père, des fidèles de l'Éternel dans le peuple. Mais au contraire, Ahaz avait de fortes sympathies pour le très puissant voisin, enfin voisin pas tout proche, mais quand même, la grande puissance du Moyen-Orient de l'époque, la puissance assyrienne. Depuis le milieu de ce 8e siècle avant Jésus-Christ, donc dans ce Moyen-Orient, où je rappelle à peu près la géographie, voilà la Méditerranée, l'Égypte, la mer Morte ici, le golfe Persique par là. Donc, dans ce Moyen-Orient, la puissance assyrienne s'était réveillée grâce à un monarque très énergique, bon chef de guerre, Tiglath-Pileser, appelé encore parce qu'il avait deux noms lui aussi, poule, mais ce n'était pas une poule mouillée. Cet empereur de l'Assyrie était un homme extrêmement puissant et le jeune Ahaz admirait ce Tiglath-Pileser. Il avait beaucoup de sympathie pour la puissance assyrienne et son véritable désir, c'était une sorte d'alliance entre Juda et les Assyriens si forts. Surtout que Juda représente un tout petit royaume ici, hein, autour de Jérusalem, avait toujours un peu peur d'un voisin un peu plus fort, en principe en tout cas, qui était le voisin Israël, Israël étant le nom du royaume des 10 tribus, capitale Samarie, juste au nord, et puis du royaume de Syrie, encore un peu plus au nord, au nord-est, capitale Damas. Et le jeune Ésaïe pouvait donc se préoccuper de cette situation. La puissance assyrienne qui redevenait très, très forte, un pouvoir partagé à Jérusalem. Lui qui avait le souci que les desseins de l'Éternel prévalent dans le peuple que Dieu avait élu. C'est alors que Dieu s'est révélé au jeune Ésaïe. C'est alors qu'il a fait en quelque sorte une irruption spéciale dans sa vie. Ésaïe était sans doute au temple, à moins que la vision qu'il a eue l'ait transporté au temple en vision, mais il était sans doute dans le temple, en train de prier le Seigneur, en train peut-être de lui faire part de cette préoccupation pour son peuple qui remplissait son cœur. Et tout à coup, il a eu vision extraordinaire. Le temple rempli de fumée, le temple vacillant sur ses bases, et il a vu sur un trône élevé, le Seigneur, dans toute sa majesté, avec des formes extraordinaires, des formes de serpents ailés, brûlantes, qui proclamait « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel, le Seigneur, le Dieu des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Ça a été la révélation au point de départ du ministère d'Ésaïe. Ça se situe en 740 ou 739 avant Jésus-Christ. La date qu'on donne habituellement pour cette année-là, c'est celle de 740, mais il y a assez peu de temps apparu un article très fouillé, très sérieux d'un spécialiste dans la revue de théologie évangélique Thémélios, qui baisse très légèrement les dates que l'on a l'habitude de donner et qui pense que c'est plutôt 739. Oui, ces dates sont valables, disons, à un an près, en gros. L'année de la mort du roi Ozias. Mais comme il nous est dit que Ésaïe a été prophète sous Ozias, ça veut dire qu'il a eu encore quelques mois de ministère, les tout premiers sous le règne d'Ozias, et que la mort du roi Ozias a eu lieu après cette grande vision dans le temple. Alors je vous la lis, cette vision, plutôt je vous lis le récit qu'en a fait Ésaïe dans le chapitre 6 de son livre, puisqu'aujourd'hui nous parlons de la personne et de la vie du prophète, en introduction de son livre que nous étudierons plus à loisir dans les mois prochains. Le livre d'Ésaïe ne commence pas par le récit de la vocation, contrairement à l'habitude dans les textes des livres prophétiques, sans doute parce que c'est un livre si grand déjà, un livre tellement construit qu'une introduction montrant la situation à l'époque a d'abord été donnée. Chapitre 6, je lis dans la Bible du Sommeur, dont vous savez qu'elle est toute récemment parue. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des êtres en forme de serpents brûlants se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes, sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ces voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Alors l'un des êtres en forme de serpent brûlant vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis alors le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis « Je suis prêt, envoie-moi. » Et le Seigneur me dit « Va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre et vous ne comprendrez pas, vous aurez beau voir et vous ne percevrez rien. Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles, et pour qu'il ne comprenne pas et qu'il ne puisse pas retourner au Seigneur afin d'être guéri. » Je demandai alors « Jusque à quand, Seigneur ?» Et il me répondit « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que ce territoire soit réduit en désert et dévasté. Et l'Éternel enverra ses habitants au loin et le pays sera à l'état d'abandon. S'il y subsiste encore 1/10 du peuple, à son tour il sera embrasé par le feu. Mais comme un térébinthe ou un chêne abattu qui conserve sa souche, la souche de ce peuple sera une semence sainte. » Vous avez repéré les éléments principaux de cette expérience inaugurale pour sa vie de prophète qu'a faite Ésaïe. D'abord, la vision de la majesté de Dieu. On a remarqué le contraste entre les 2 usages du mot « roi » dans ce passage. L'année de la mort du roi Ozias. Mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Le roi Ozias, ce roi frappé de lèpre, impur, incapable d'exercer vraiment le pouvoir, petit roi, bien peu digne finalement de ce titre. Ce n'est pas lui le vrai roi. Chacun doit comprendre que les rois de cette terre ne sont que de pâles reflets du pouvoir royal véritable, celui qui est au commencement et à la fin, celui du Seigneur, sur son trône élevé. Mes yeux ont vu le roi. Premier élément de la révélation qui est faite à Ésaïe et qui correspondait, vous voyez très bien, à ce qui était son souci, sans doute déjà, où se trouve le véritable pouvoir, où se trouve l'autorité, plus encore que le pouvoir. L'autorité qui est le pouvoir légitime de dire et de déterminer. Et puis ensuite, associé à cette majesté de l'autorité divine, la sainteté de Dieu. C'est le 2e trait qui est révélé particulièrement à Ésaïe. C'est ce que proclame les séraphins, comme on les appelle, saint, saint, saint est le Seigneur. Et c'est ce que les séraphins signifient eux-mêmes. Ce sont des formes symboliques d'une grande signification qu'il nous faut bien décoder. Le mot séraphin, saraf en hébreu, veut dire brûlant, ardent. Et le feu est le symbole de la sainteté de Dieu, la sainteté qui consume le mal dans beaucoup de textes de toute la Bible, vous le savez. Mais en plus, leur forme aussi est une forme qui évoque la sainteté de Dieu. La note dans la Bible du Semeur est tout à fait exacte. Le terme hébreu désigne un serpent du désert à la morsure redoutable qui est mentionné en Nombre 11 et Deutéronome 8. En Ésaïe 14 et 30, ce serpent se présente avec des ailes. Au chapitre 6, il sert à décrire des êtres hybrides, serpents ailés, ayant un visage et des mains d'hommes, traditionnellement appelés séraphins par la suite, dont l'archéologie a mis au jour des représentations datant du Moyen-Orient ancien. L'unique lieu dans l'écriture où le mot « saraf » soit employé, comme il l'est ici, c'est dans le récit du serpent d'airain, de la plaie des serpents brûlants du désert, qui ont puni les murmures du peuple et l'incrédulité des Israélites. Dans Nombre 21 et dans Deutéronome 8, c'est le rappel de ce même épisode, c'est là que le mot est employé. Le mot évoquait tout de suite, pour les lecteurs du livre d'Ésaïe, la plaie des serpents, qui rappelle que Dieu est un feu dévorant et que ce feu se manifeste par sa justice, par les châtiments, comme le châtiment des serpents dans le désert. Et dans la suite du livre d'Ésaïe, donc, nous avons deux fois mention encore des saraphs, des séraphim, et c'est chaque fois en parallélisme avec la vipère, les serpents du désert, terrifiants. Donc on ne peut pas mettre en doute le fait qu'il s'agit d'une forme de serpent, mais en plus avec des ailes, et puis comme il est parlé d'un visage, donc il se couvrait, certainement aussi avec des traits humains. C'est une composition qui a une charge symbolique et qui veut exprimer que la présence de Dieu est redoutable parce qu'il est saint, et que c'est comme un feu qui brûle si on s'approche de trop près sans la protection voulue. Deuxième donc élément capital de Dieu qui se révèle à Ésaïe pour faire de lui son serviteur, la sainteté de ce Dieu que le prophète, il devient prophète à ce moment-là, qu'Ésaïe comprend tout de suite, il perçoit bien le message. Car quelle est sa réaction? Malheur à moi, je suis perdu, j'ai les lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il perçoit immédiatement son manque de sainteté face à la sainteté de Dieu et qu'il est radicalement indigne, frappé d'une lèpre qui est comme la lèpre du roi Ozias, frappé d'une lèpre spirituelle qui l'empêche vraiment de tenir devant Dieu. Il n'a pas pour réaction « Oh, ben ça y est, alors si Dieu me montre sa majesté, c'est qu'il a envie de faire de moi quelqu'un. La fierté n'a pas non plus la réaction « Oh Dieu, s'il se révèle à moi, veut se servir de moi, mais je ne sais pas m'y prendre, je ne suis pas compétent. » C'est pas ça le problème. Le problème, c'est celui du péché, de l'impureté. Il le discerne aussitôt. Il est tout de suite dans l'axe. Je pense que ça, c'est une grande vérité biblique générale que nous pouvons immédiatement remarquer. Ce qui nous rend impropres au service de Dieu, ce n'est pas notre faiblesse, ce n'est pas notre incompétence. On a pu dire qu'on n'est jamais trop petit pour servir d'instrument au Seigneur. Il se plaît à utiliser les choses faibles du monde. Il y a une seule chose qui nous empêche de servir le Seigneur. C'est le péché, c'est l'impureté. Entre Dieu et les hommes, c'est ça le problème, c'est pas autre chose d'après toute la Bible. Et immédiatement, Ésaïe en est conscient parce que c'est vraiment Dieu qu'il rencontre. Et vous notez qu'il y a un double aspect, je trouve que c'est très intéressant, ça fait partie de cette lucidité que d'emblée Ésaïe démontre. Il reconnaît son péché personnel. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et il reconnaît la dimension collective de solidarité dans le péché aussi. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. C'est pas une affaire simplement d'accident individuel, mais par toutes les attaches qui me définissent, je participe à cette impureté commune. Alors c'est pas seulement l'aspect commun, et alors finalement ce serait pas ma faute, mais ce n'est pas non plus seulement l'aspect individuel. C'est vraiment toute mon existence naturelle d'homme, et même donc d'homme bien éduqué, pieux, etc. C'est tout cela qui se trouve sous le jugement d'un Dieu saint. Et alors la vision est extraordinaire parce qu'elle nous montre exactement quel est le remède à ce qui est le problème dans les perspectives bibliques. L'un de ces êtres brûlants manifestant la sainteté de Dieu va prendre une braise sur l'autel, un charbon qui brûlait sur l'autel des sacrifices, et l'appliquer sur les lèvres d'Ésaïe. L'autel, c'est là où on offrait le sacrifice. C'est là où le sacrifice expiatoire était consommé et consumé. C'est là donc que s'opérait la grande transaction. Une victime innocente représentait le coupable, se chargeait en quelque sorte de son impureté et subissait le jugement du Dieu saint à la place du coupable. C'est ça le principe même du sacrifice sur l'autel. En prenant une braise de l'autel des sacrifices, en fait, c'est l'efficacité du sacrifice que le Saraf va prendre et appliquer à Ésaïe. Pour être purifié, il faut que l'effet du sacrifice soit appliqué. Il faut le sacrifice d'abord, mais il faut en plus qu'il soit reçu personnellement, ou que son effet soit reçu personnellement. Et c'est ce que représente tellement bien ce mouvement du charbon ardent pris de l'autel, appliqué sur les lèvres d'Ésaïe. Et la parole est parfaitement claire. Maintenant que ceci vient d'être appliqué à tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et alors après ça, c'est l'appel au service. Un appel qui est aussi pour nous un rappel, à savoir que lorsque nous avons reçu la purification de nos péchés par l'application du sacrifice offert pour nous, ce n'est pas pour que nous en restions là, mais c'est pour que nous remplissions la mission que le Seigneur nous assigne. Et Dieu veut qu'il y ait un engagement personnel de la part d'Ésaïe. Il ne se contente pas de lui dire « Bon, eh bien maintenant, va ». Il aurait pu le faire, il le fait parfois, semble-t-il, pour d'autres dans l'Écriture. Mais ici, Dieu présente son appel sous la forme d'une question, comme d'une invitation pour qu'il y ait un mouvement d'initiative en réponse de la part d'Ésaïe. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et Ésaïe, qui est vraiment tout de suite au diapason de la pensée de Dieu, répond sobrement, oui. C'est la sobriété de l'humilité. Je suis prêt, envoie-moi. Je crois qu'il ne faut pas le prendre pour de la suffisance, mais non, il a bien saisi d'abord qu'il était impur et incapable. Et c'est au contraire là vraiment l'humilité qu'il montre. Et s'il faisait des chichis, s'il disait « Ah mais je suis peut-être etc. » En fait, ça montrerait qu'il aurait été encore encombré de sa propre personne, trop soucieux de son « moi ». Souvent, ce qui peut sembler de la modestie, en fait, c'est de l'orgueil qui se déguise. Mais là, sobre humilité, me voici. Je suis prêt. Envoie-moi. Et après ça, alors, il y a l'ordre de mission du Seigneur, qui est un ordre extrêmement bizarre, énigmatique. Le prophète reçoit des instructions qui vraiment avait de quoi l'étonner, rend ce peuple insensible. Ferme-lui les oreilles, bouche-lui les yeux. Message de jugement. Et jusqu'à quand, dit-il, parce qu'il se rend bien compte, ça va être terrible, jusqu'à des dévastations complètes du pays. Quelle est donc cette pensée divine? Nous essaierons d'y revenir un peu dans les conclusions que je voudrais tirer tout à l'heure, mais je pense que nous pouvons déjà dire qu'il y a deux aspects qui sont valables de manière très très générale. Il y a un avertissement là que le succès, selon le monde, mais selon la pensée spontanée des fidèles, des croyants aussi, il n'est pas forcément garanti au serviteur fidèle, au serviteur le plus doué, comme l'était Ésaïe. Le résultat de sa mission allait être que pour la majorité, en tout cas, dans le royaume de Juda, il y aurait plutôt endurcissement que conversion. Et que ça allait attirer alors tous les malheurs sur le pays. Et puis, deuxième chose qui est aussi valable universellement, c'est que quand ça se produit, ce n'est pas que Dieu alors a été vaincu, que Dieu a été pris au dépourvu. Non, mystérieusement, cela correspond aussi à ses plans. C'est très étrange. Nous ne comprenons pas. Selon l'expression que j'emploie souvent dans les cours à la faculté, c'est un mystère opaque. Nous ne pouvons pas pénétrer avec notre intelligence ce mystère, mais ici, il me semble très net que nous avons un dessein de Dieu qui englobe même les réactions négatives du peuple, et dont Ésaïe doit dire, oui, c'est comme ça que le Seigneur, le Dieu des armées célestes, celui qui est le roi, en a décidé. Et ce qu'il a décidé est juste et bon, avec un trait d'espérance cependant à la fin. Tout à la fin, Dieu lui dit que si toutes ces dévastations doivent se produire, et si tous les arbres glorieux de Juda doivent être abattus comme une forêt que les bûcherons réduisent à ne plus laisser que des souches en terre, il y a là une promesse de renouveau un jour. Une souche en terre, c'est peut-être le lieu duquel des rejetons vont jaillir, une semence d'avenir. La souche de ce peuple sera une semence sainte. Voilà. Ce que nous pouvons dire, c'est bref, bien sûr, mais ce que nous pouvons dire de ce que le prophète Ésaïe a reçu dans cette vision qui a marqué son entrée dans le ministère. Alors, quelques mois après, Ozias mourait, Jotham, son fils, devenait le roi en titre, mais en continuant bien sûr la même politique, tandis que Ahaz devenait plus fort, et que les Assyriens aussi, et que les deux royaumes d'Israël et de Syrie, surtout parce que les Assyriens leur faisaient peur, commençaient à s'agiter alentour. Pendant les premières années de son ministère, on peut penser que le prophète Ésaïe a prêché de manière assez générale contre les péchés courants dans le pays. Il s'est mis un peu au diapason de Michée. Ces deux hommes, comme nous avons vu, étaient contemporains, grosso modo. Et on peut dire que certains accents d'Amos précédemment se retrouvent, bien qu'il y ait des petites nuances. Ésaïe était ce citadin aristocrate, alors ce qu'il dénonce tout spécialement, c'est l'anarchie. L'anarchie lui paraît particulièrement scandaleuse. Mais bon, Dieu se sert aussi de la sensibilité propre à chacun. Mais nous avons dans les premiers chapitres, donc les chapitres 2 à 5 essentiellement, sans doute les discours que le prophète Ésaïe a prononcés pendant les premières années de son ministère, encore tout jeune. En 735, sans doute la date, enfin je vous dis toujours plus ou moins un an, en 735, donc, avant Jésus-Christ, quelques années plus tard, alors un événement se produit à Jérusalem qui a une importance assez considérable. Coup d'État, révolution de palais à Jérusalem. Jotham est le roi en titre, mais Ahaz, son fils, vous avez dit que c'était un homme fort, en réalité le renverse et prend le pouvoir, lui, à la tête d'un parti pro-assyrien. je pense qu'on peut très facilement imaginer ce qui s'est passé. D'abord, les Judéens ont de plus en plus peur des menées des Syriens et des Israélites du Nord, qui font pression sur eux. Les Syriens et Israélites voudraient constituer une immense coalition de tous les petits États contre les Assyriens, parce qu'eux ont peur des Assyriens. Mais Judas n'a pas envie d'entrer dans une telle coalition. Ceux qui sont fidèles à l'Éternel ne le veulent pas parce que c'est toujours ce que les prophètes ont interdit. Le peuple de Dieu ne doit pas entrer dans ces alliances internationales avec des peuples idolâtres et tout. Donc, les fidèles de l'Éternel ne le veulent pas, et les autres avec Achaz ne le veulent pas parce qu'ils sont plutôt pro-assyriens. Donc, Judas ne le veut pas. Du coup, pression de plus en plus forte des Israélites et des Syriens. Du coup, les gens s'énervent à Jérusalem. Et surtout les pro-assyriens qui disent « on ne fait rien, Yotam, il ne fait rien, les autres vont nous attaquer. Il faut absolument faire alliance avec les Assyriens, prendre des garanties du côté là, du Grand Empire. » Et alors, finalement, ils font un coup d'État et ils portent Achaz au pouvoir pour cette politique. Mais les Assyriens sont loin, alors que les Syriens et les Israélites sont tout près. Et peu de temps après cette prise du pouvoir par Achaz, se déroule un face-à-face entre le prophète et le roi Achaz, ou il n'est pas encore vraiment le roi en titre, mais en fait, il exerce le pouvoir royal, à Jérusalem, donc en 735, à peu près 34, peut-être. La situation est la suivante, elle nous est décrite au chapitre 7, et nous reviendrons sur ce chapitre plus tard. Les Syriens et les Israélites ont décidé de monter contre Jérusalem avec leurs armées. Et les armées de Syrie et d'Israël viennent de faire leur jonction pour attaquer Jérusalem. Ils ont même déjà choisi celui qui va remplacer Achaz au pouvoir. Tabnéel, fils de Tabnéel, et Achaz. Et tous ceux qui sont avec lui se mettent à trembler à Jérusalem comme frissonnent les arbres de la forêt sous le vent. Voilà ce qui nous est dit. Et Achaz essaye quand même de prendre sur lui, et il va inspecter sur le rempart les défenses, et en particulier tout ce qui concerne l'approvisionnement en eau. Dans les sièges de l'Antiquité, dans ce Moyen-Orient, c'était le problème vital, celui de l'eau, des réserves d'eau. Et c'est à ce moment-là que le prophète Ésaïe le rencontre, en lui disant, de la part du Seigneur, ce que tu redoutes, les Syriens et les Israélites, n'aie pas peur, ça. Ce sont des bouts de tison qui sont en train de finir de brûler, ils n'ont pratiquement plus de puissance, ils ne te feront rien. Mets simplement ta foi dans l'Éternel, et tu seras bien établi. C'est une façon de lui dire aussi, n'essaie pas de t'appuyer sur les Assyriens. Ce que comprend très bien le roi Achaz. Et quand le prophète lui dit, demande un signe, un miracle, n'importe lequel, pour certifier ce que je viens de te dire, le roi élude. Le roi dit, oh non, je ne veux pas tenter l'Éternel. Il sait très bien que si un miracle se produisait par les mains d'Ésaïe, alors il serait lié devant toute l'opinion publique. Il ne pourrait plus pratiquer sa politique pro-assyrienne. Il ne veut pas en changer. Alors il élude. Et le prophète alors lui réplique par un oracle assez complexe que nous aurons à voir, où il annonce la venue d'Emmanuel, mais où il annonce aussi les dévastations que les Assyriens plus tard feront dans le pays de Juda. Oui. Donc, en 735-34, face à face entre le prophète et le roi, qui était peut-être son cousin éloigné, puisqu'il était vraiment de descendance royale. Il a eu ce courage de se dresser. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, Achaz, effectivement, réussit à échapper à l'assaut des Syriens et Israélites. Il n'est pas vraiment inquiété, mais il continue sa politique. en adoptant aussi les cultes assyriens. Et il va jusqu'à faire passer un de ses enfants par le feu, brûlé en l'honneur de la divinité païenne, un de ses fils. Ahaz continue à régner. Jotham meurt quelques années après, et Ahaz devient le roi en titre aussi. Que fait le prophète Ésaïe? Nous ne savons pas très bien. Il est sans doute contraint à un certain retrait de la vie publique, mais en même temps, il prêche sans doute également. Et il prêche en tout cas les destructions qui vont affecter le royaume d'Israël et la ville de Samarie. Au chapitre 28 de son livre, nous avons là l'annonce du jugement qui va frapper Samarie et que les autres prophètes avaient annoncé aussi, Michée et déjà Osée et Amos, vous vous rappelez. Donc nous avons une prédication d'Ésaïe sans pouvoir dater très précisément les choses qui précèdent 723, le moment où Samarie sera effectivement détruite par les Assyriens. À partir de 729-28, il y a de nouveau un régent. Le fils d'Akaz a été nommé co-régent, mais sans véritable pouvoir, sans doute à ce moment-là. Il s'appelle Ézéchias, et lui, peut-être sous l'influence de sa mère en particulier, parce que dans les familles royales, c'était les mères, il y avait plusieurs reines qui influençaient sans doute le plus spirituellement leurs enfants. Ézéchias, lui, est bien orienté. Peut-être que s'il a été nommé co-régent en 729, c'est parce que on a voulu donner un gage au parti des fidèles de l'Éternel. Ahaz a senti qu'il y avait là quand même un courant d'opinion puissant, alors on a nommé co-régent Ézéchias. Après la destruction de Samarie, la grande dévastation d'Israël, se passe encore quelques années, et puis en 715, Ahaz meurt, et Ézéchias devient le roi effectif avec le pouvoir à exercer. Alors à ce moment-là, la situation change énormément. Ézéchias, qui va avoir une politique conforme aux instructions de la parole de Dieu, dites par les prophètes, Ézéchias donc commence son règne dans une situation assez favorable. Le pays de Juda a été en gros épargné, et maintenant il n'y a plus de rival en Israël, dans le territoire des 10 tribus au nord. Pour la première fois depuis Salomon, il n'y a plus de division entre les deux parties de l'héritage de Jacob. Il n'y a plus de royaume d'Israël rival du royaume de Juda. Et effectivement, pour la première fois depuis Salomon, on célèbre la fête de la Pâque à Jérusalem pour tout Israël, des 12 tribus. C'est une très grande fête. Ézéchias peut faire figure un peu de nouveau Salomon, parce que depuis Salomon, il est le premier à exercer son autorité sur tout le pays. Et d'ailleurs, il va s'entourer de sages, il va y avoir les gens d'Ézéchias, dont le livre des Proverbes nous parle, qui sont des scribes, des sages remarquables. Ézéchias va avoir un début de règne, en tout cas, prospère, et dans la fidélité à l'Éternel. Et Ésaïe, à coup sûr, pendant ce temps-là, alors, va jouer un rôle important. Il semble qu'il ait été un peu le prophète officiel, et même avec des fonctions d'historien, de mémorialiste. Il nous est dit dans le second livre des Chroniques, au chapitre 26, qu'il a fait un récit du règne d'Ozias, un peu comme un historien. Ça n'a pas été conservé, ce n'est pas dans la Bible elle-même. Mais ça nous montre qu'Ésaïe a eu des fonctions de sage reconnu. Et sans doute, donc sous le règne d'Ézéchias, est-il considéré comme vraiment un personnage de référence. Mais les choses vont se gâter pour Ézéchias, vers le milieu de son règne et la fin de son règne. L'ordre dans lequel les choses se sont passées n'est pas parfaitement évident, mais je pense qu'on peut le reconstituer. Il y a eu une maladie d'Ézéchias. Ézéchias a été malade à la mort. Et vraiment, il semblait qu'il devait y passer. Alors il a pleuré, prié le Seigneur, et il lui a été accordé une guérison miraculeuse, avec un signe associé d'ailleurs, le signe sur les cadrans d'Akaz, un cadran solaire sans doute, ou peut-être un escalier. Et le prophète Ésaïe a joué le rôle d'intermédiaire de Dieu à ce propos. C'est lui qui a préparé un emplâtre à base de figues, mais c'est plutôt un symbole qu'un moyen vraiment médical, pharmaceutique. Et il a été donc, pour Ésaïe, il a été le porte-parole de l'annonce de guérison qui a été fait à Ésaïe. Puis il y a eu un autre épisode qui se situe sans doute un peu après. Il y a eu à Jérusalem une ambassade de Babylone. Babylone était une province de l'Empire assyrien, mais qui tendait toujours, parce qu'elle contenait l'une des sept merveilles du monde, c'était le souvenir d'un vieil empire, elle cherchait toujours à recouvrer son indépendance. C'était une province turbulente que les Assyriens avaient toujours du mal à réduire à la soumission. Et il y a eu une ambassade conduite par, envoyée par Merodach Baladan, Marduk Aplaïdin, le chef nationaliste des Babyloniens, qui voulait l'alliance de Juda contre les Assyriens. Alors le roi les a très bien accueillis, il ne s'est pas laissé entraîner. C'est un roi pieux et sage, mais quand même, un petit peu orgueilleux comme hein, même les plus fidèles peuvent l'être. Alors vaniteusement, il leur a montré tous ses trésors, il leur a fait quand même très bonne figure à ses envoyés de Babylone. Et là, le prophète Ésaïe l'a repris assez sévèrement, lui disant, mais insensé, pauvre fou, tu ne te rends pas compte que tous ces trésors, ce sont les Babyloniens qui vont les emporter. Et ils vont prendre tes enfants, et ils vont en faire les esclaves de leur palais. Il a annoncé une déportation que les Babyloniens opéreraient de la part donc de ces Babyloniens qui venaient rendre visite au roi et que le roi avait si bien reçu. Et puis alors, il y a eu la grande attaque des Assyriens, qui elle est bien datée, on sait très bien à quel moment, 701. Les Assyriens sont montés à l'attaque de Juda et ils ont failli tout emporter. Ils ont fait de grands ravages dans le pays. Mais là encore, il y a eu une délivrance miraculeuse. Jérusalem était assiégée et c'était terrible, mais l'ange de l'Éternel a frappé le camp assyrien, probablement une épidémie de peste qui a éclaté. Et du coup, ils ont décampé et la ville de Jérusalem n'a pas été prise. Même si, dans des conditions qui ne sont pas parfaitement nettes pour nous, le roi Ézéchias a versé un tribut important. Probablement, il y a eu des tractations avant ce moment de délivrance. Le roi de Babylone, où son envoyé, a dit qu'il se contenterait d'un grand tribut, donc il a pris tout ce tribut que le roi Ézéchias lui a fait donner, puis ensuite, il est revenu sur sa parole en disant « Non, non, j'exige une reddition sans condition ». Et c'est probablement comme ça que le Seigneur est intervenu. Et là encore, le prophète Ésaïe a joué un rôle décisif. Il a écrit le récit de cette affaire et on le trouve aussi dans le livre des rois. La fin, nous ne la connaissons pas très bien, très précisément, de la vie du prophète Ésaïe. Il semble qu'après ça, il se soit retiré de la vie publique. Quand le fils d'Ézéchias, Manassé, a été mis co-régent en 697, il n'a pas dû être très heureux parce que ce Manassé était au contraire très, très impie et idolâtre de cœur, un peu comme son grand-père Ahaz. Et le prophète Ésaïe, dans cette retraite, semble avoir reçu des visions alors à beaucoup plus long terme à propos de l'exil qu'il avait déjà annoncé lors de l'ambassade babylonienne, mais aussi bien au-delà, à propos du salut qui serait comme une nouvelle création pour le monde entier, avec un serviteur de l'Éternel qui en serait le grand instrument. Ce qui se trouve dans toute la dernière partie de son livre. D'après la tradition juive, mais là encore ce n'est pas donc tout à fait assuré, il aurait vécu jusqu'à Manassé, et Manassé aurait commencé une persécution contre les fidèles du Seigneur, et ayant persécuté les fidèles du Seigneur, il aurait poursuivi le prophète alors fort âgé, sans doute né vers 760 avant Jésus-Christ, il devait avoir à peu près 80 ans. Et poursuivi par les sbires du roi, il aurait cherché refuge dans un arbre creux, mais sa cachette aurait été découverte et le supplice qui lui a été, le supplice mortel, ont été alors mis à mort de diverses façons, sciés. C'est le seul cas que la tradition juive évoque d'un supplice de ce genre. Donc il est possible que dans Hébreux 11, nous ayons une confirmation de cet élément de tradition juive. Voilà le schéma de la vie d'Ésaïe. Les leçons que nous pouvons en tirer me semblent principalement les suivantes. D'abord, que Dieu choisit des gens dans toutes les catégories. Bon, il a choisi les choses faibles du monde, ceux qui ne sont pas bien nés selon les critères habituellement employés, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en choisit quand même pas aussi, dans l'aristocratie, dans une famille royale. Dieu reste libre. Ensuite, Dieu se sert des instruments selon les dons qu'il leur a faits. Il peut se servir d'un instrument très peu doué et faire de grandes choses par lui, mais il se sert aussi de gens très doués comme Ésaïe, comme Paul dans le Nouveau Testament. Et une fois qu'ils ont reconnu qu'ils sont impurs par eux-mêmes et qu'ils reçoivent la purification divine, il peut se servir d'eux aussi très grandement. Mais la mission qu'ils reçoivent n'est pas pour autant une mission facile. Il peut y avoir des aspects très très mystérieux et des apparents échecs selon le monde. Voilà ce que je voulais résumer. Je compte que donc jusqu'à l'été pratiquement, dans les séances qui ne seront pas des séances communes d'Institut biblique, nous voyons non pas tout le livre, mais les chapitres, les prophéties les plus importantes par groupe dans les mois qui vont venir. Alors, nous avons 10 minutes. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, oui, Madame Ocade. Oui, alors. Oui, alors, c'est plutôt 697 qui est la date que nous indiquent les spécialistes à ce propos, que plutôt que 699. Donc, par rapport à 705 pour la maladie d'Ézéchias, donc ça laisserait quand même le temps d'avoir un garçonnet, disons. Il n'est pas impossible que même un enfant très très jeune ait pu être nommé corrégeant, car il s'agissait surtout de la succession, de prévoir pour empêcher les luttes entre frères ou demi-frères dans les cours royales pour la succession. Mais je n'ai pas fait le calcul, le repérage. Vous savez, c'est une situation très difficile. Pendant très longtemps, personne ne s'y retrouvait pratiquement dans ces chiffres des rois et des durées de règne. Entre les livres des chroniques et des rois, et les critiques libéraux se moquaient, en disant ça ne peut pas être juste. Et alors il y a à l'université de Chicago un évangélique qui avait beaucoup souffert des moqueries de ses professeurs, qui a fait sa thèse de doctorat sur ce sujet, un homme appelé Edwin Tilley, que j'ai rencontré une fois autrefois dans les années 60, et qui a, non pas résolu toutes les énigmes, mais presque toutes, qui a trouvé le système, qui est essentiellement celui de ces corrégences. Tantôt, le début du règne est daté du moment d'une corrégence, tantôt du règne seul, alors évidemment, ça paraît incohérent. Il a débrouillé pratiquement tout, il en a tiré un livre, hein, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, les nombres mystérieux des rois hébreux, qui a été reconnu comme, en effet, solide par de nombreux libéraux Les libéraux eux-mêmes qui se moquaient avant ont reconnu que c'était un travail qui méritait toute l'attention et qui avait sans doute résolu l'énigme. J'ai lu par exemple le témoignage de Jeffrey Driver, le fils d'un autre très grand libéral, mais un libéral lui-même, un spécialiste britannique important. Donc, il a fait le travail essentiel. Alors d'autres ont encore un peu raffiné ce travail. Et l'article récent que j'ai signalé, donc, s'appuie sur lui, mais entre encore dans plus de détails, avec tout ce qu'on peut savoir de la période, d'un certain Leslie McFaul qui enseigne à Belfast. Donc, je pense qu'on peut dire que maintenant, c'est un grand privilège pour notre génération, nous avons à peu près la clé chronologique. Mais il n'y a pas doute que ce n'est pas tout facile. Christian Dougou, monsieur Dougou. Oui. Alors, géopolitique, géographie, quoi. Assyrie et Babylone, c'est l'Irak. C'est l'Irak. Babylone est en Irak. Bien sûr, les bouts de Babylone correspondent davantage à des États du Golfe, qui sont de petits États, mais Babylone même, la ville de Babylone, appartient à l'Irak aujourd'hui. Alors, Syrie, c'est à peu près Syrie. Oui, la République de Syrie, aujourd'hui, je ne dis pas que ce sont exactement les mêmes frontières, d'ailleurs elles ont fluctué dans le temps de l'Ancien Testament, mais c'est à peu près la même chose, c'est toujours Damas. Oui. Alors, dans l'Ancien Testament, ça a dépendu des périodes, mais en général, oui. Quand les Syriens avaient un État puissant, capable de soumettre les petits États cités, les petites principautés en quelque sorte, oui, ils réussissaient à englober le Liban, aller jusqu'à la mer. Et alors, en ce qui concerne la situation présente, vous le savez, enfin, Madame Baous est avec nous, et la Syrie exerce son protectorat sur le Liban. Elle n'a pas encore réussi à faire admettre par le droit international, par tous, que le Liban est une de ses provinces, comme elle voudrait. Mais de fait, elle exerce le pouvoir. C'est l'armée syrienne qui maintient l'ordre. Donc, pas tout. Tout ça comme moi. Donc voilà la situation. Le Liban, donc, se situe ici. Alors, il n'y a pas vraiment de grande ville. Je crois que ce serait encore Babylone, mais ce n'est pas... Je me rappelle, j'avais regardé, c'est dans les 120 kilomètres, 120, 130 de Bagdad, quelque chose comme ça, au sud de... Sud de Palme, en gros, au sud de Bagdad. Oui, mademoiselle. Alors, outre la Bible, pour la période, il y a certaines choses dans les écrits des historiens grecs, Hérodote, comme plus ancien et quelques plus récents, un peu plus récents, mais ils ne sont pas très très fiables, disons, ils sont utiles. Et puis alors, les découvertes archéologiques, et surtout des tablettes d'annales royales, assyriennes et babyloniennes. Certaines de ces tablettes ont été éditées par des évangéliques dans les universités de Londres ou de, je crois que c'est de Liverpool, Donald Wiseman, par exemple, a été responsable de l'édition, ou co-responsable au moins, de l'édition de certaines de ces tablettes. Et on a, par exemple, pour l'attaque de Jérusalem en 701, on a le rapport fait par Sanchérib dans sa chronique royale de sa campagne de Juda. Alors on a une confirmation de ce qui est dit dans le livre des rois, qu'il a eu un tribut énorme avec des esclaves masculins, féminins, etc., qu'il a réussi. Il dit « J'ai enfermé Ézéchias comme un oiseau dans sa cage ». Il se vante, il parle de toutes les villes qu'il a prises en Juda, comme d'ailleurs Michée l'avait annoncé. Vous vous rappelez le chapelet des villes dont Michée annonçait qu'elles allaient être dévastées. On trouve ça dans cette relation royale par Sanchérib certains disent Sennacherib, pour la campagne de 701, mais c'est très intéressant, il ne peut pas dire qu'il a pris Jérusalem, il ne le dit pas. Il parle de toutes les villes qu'il a prises, du tribut qu'il a exigé d'Ézéchias et qu'il a obtenu, mais il ne dit pas « j'ai pris la ville ». Il l'aurait dit s'il l'avait fait. Non, vous voyez, c'est une confirmation très remarquable du récit biblique. Monsieur Weinberg.
Vous avez dit que Ézéchias s'exerçait sur tout le territoire d'Israël.
Oui. Non, depuis 723, il n'en avait plus. Depuis la prise de Samarie, ils en avaient eu, alors ça s'était fini de manière assez pitoyable d'ailleurs, avec des rois, des prétendants à la royauté qui s'opposaient, mais depuis 723, il n'y en avait plus. Alors il y avait eu une déportation en 723-722 d'une partie de cette population des 10 tribus de Samarie, mais quelques milliers de personnes seulement. Et il en restait un nombre important dans le pays. En fait, il y a eu de nouveau des dévastations, une quarantaine d'années plus tard, une cinquantaine d'années plus tard, ce qui nous explique une indication de temps que l'on trouve au chapitre 7 d'Ésaïe. Beaucoup de gens n'ont pas réussi à comprendre cette mention. En 735 ou 34, donc, le prophète Ésaïe dit à Achaz, dans 65 ans, Éphraïm sera écrasé et n'existera plus en tant que peuple. 65 ans. Or, ça s'est fait beaucoup plus tôt, puis c'est en 723, alors que ça s'est dit en 734. Vous voyez, c'était 11 ans plus tard qu'Éphraïm a cessé d'être une royauté et a été déjà écrasé par les Assyriens. Alors beaucoup de gens ont dit, est-ce qu'il faut retravailler le texte, est-ce qu'il y a une erreur, etc. Mais non, on a trouvé le fin mot de cette affaire. Après 723, il n'y a plus d'État d'Israël, pour les 10 tribus, plus de rois, mais il y a encore eu une population autochtone importante. Et c'est 65 ans après, vers 670, que les Assyriens sont revenus, ils revenaient périodiquement, etc., et qu'ils ont emmené une part beaucoup plus importante de la population en captivité, en remplaçant d'ailleurs par des peuples d'autres provenances, d'où le mélange qu'a fait les Samaritains. Oui, monsieur Bellage, puis je pense que c'est peut-être la dernière question, puisque nous avons juste atteint l'heure là. Peut-être. Moi, je pense que le texte est tellement sobre que nous ne pouvons que spéculer, essayer de lire entre les lignes à ce propos. Et je suis un petit peu réservé devant les tendances de quelques commentateurs ou prédicateurs évangéliques qui se croient en mesure de critiquer Ézéchias très durement, en disant on lui avait dit qu'il va mourir, il aurait dû accepter ça de la part de Dieu, il a eu tort de demander une rallonge, un sursis, et les dernières années ont été mauvaises, il a engendré Manassé qui a été un mauvais roi, etc. Vous voyez, je ne suis pas si sûr. Vous savez, sa prière est très très belle. Dieu lui a accordé cela, on peut aussi bien dire, il lui avait dit, tu vas mourir pour éprouver sa foi. Dieu agit aussi comme ça avec nous. Alors, prononcer un jugement sur cette question, je m'en abstiendrai. Je ne sais pas. Voilà, je pense que nous pouvons donc clore. La fois prochaine, je pense que nous pourrons étudier les prophéties de l'Emmanuel, celles qui sont liées au chapitre 7 et 9 et 11.